vous suit.
Et voici les titres du journal.
Retour dans ce journal sur la mobilisation autour de l'expulsion programmée de l'auxiliaire de santé chablaisienne Nathalie Ngono. Amnesty Mondial récoltait ce matin des signatures sur le marché de Montet. Yves Terrani était sur place. Le centre hospitalier du Valais-Romand à Sion accueille depuis hier un hôpital miniature. Le but, permettre à des élèves du cycle d'orientation de découvrir les différents métiers de la santé. En basket, le BBC Montet-Chablais a sans doute perdu plus qu'un match hier soir contre Fribourg Olympique. Et en ski alpinisme, nous poursuivrons notre série de portraits des participants de la région à la mythique patrouille des glaciers.
Et pour la météo, c'est le soleil qui domine aujourd'hui. Et pour demain, eh bien, ce sera tout pareil. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal de midi qui nous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Angela, bonjour à tous. La mobilisation contre l'expulsion de Nathalie Ngono ne baisse pas d'intensité. Ce matin, sur le marché de Montet, le groupe régional d'Amnesty International récoltait des signatures pour une pétition destinée à enrayer le processus administratif devant conduire à l'expulsion de cet auxiliaire de santé de l'EMS La Charmée à Murat. Vous étiez sur place au marché, Yves Terrani, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès était au rendez-vous.
Oui, absolument. Très très peu de personnes refusaient en effet de signer la pétition ce matin, de quoi réjouir les représentantes du groupe Montet-Chablais d'Amnesty International. Jacqueline Rigamonti est l'une d'entre elles et nous lui avons demandé ce que lui disaient les gens au moment de signer.
Ils disent c'est scandaleux, ça ne devrait pas exister, pourquoi on la renvoie? Et puis vous voyez, excusez-moi, mais on accueille les Ukrainiens à bras ouverts et puis cette dame, voilà, c'est un petit peu ce que disent les gens. Mais en général, comme ils connaissent déjà l'histoire, ils signent avec générosité et spontanéité. C'est pas dur de récolter les signatures.
Générosité, spontanéité, on retient ça Yves. Et puis vous avez pu vous entretenir aussi avec quelques signataires.
Oui bien sûr, Robert par exemple, la cause de Nathalie Ngono le touche.
Oui, je suis très très sensible à ce genre de cause, je trouve qu'il y a une injustice là derrière et puis il faut prendre des situations aussi au cas par cas et pas seulement globaliser les choses. Donc voilà, je suis aussi pour qu'on fasse attention un petit peu à la manière dont on accueille, mais en même temps il y a des situations privées, particulières comme celle-là qui nécessitent une prise en compte personnalisée et adaptée.
Reste cette question, Yves. L'espoir demeure-t-il de mise de voir ce dossier aboutir positivement en lien avec cette pétition?
En tout cas, membre elle aussi du groupe Montet-Chablais d'Amnesty International, Monique Lombardi, veut y croire.
Parce que cette dame mérite de pouvoir rester en Suisse, franchement. Juste pour une erreur, suite à des recours que cette dame a fait et auxquels l'administration n'a pas répondu. Puis tout d'un coup, paf, elle reçoit un avis d'expulsion qui tombe du ciel, on ne sait pas pourquoi, alors que cette dame, elle est depuis 15 ans ici, qu'elle a un petit enfant de 6-7 ans, qu'elle travaille, qu'elle n'a jamais été demander de l'argent à qui que ce soit, qu'elle s'occupe de ses enfants, qu'elle soutient encore financièrement ses deux enfants majeurs qui, eux, peuvent rester en Suisse, on ne comprend pas, quoi.
Voilà, vous dire encore que pour l'heure, la pétition en ligne en faveur de Nathalie Ngono a déjà recueilli plus de 8000 signatures.
Merci beaucoup Yves Terrani.
B est le château d'eau du Chablais.
La commune et ancienne cité des Bains fournit actuellement un quart d'eau potable montésane, un chiffre qui pourrait même doubler. Explication avec Emmanuel Capancioni, municipal bellerin chargé de l'environnement.
25% de l'eau livrée à Montet provient déjà de la commune de Baie et si la nouvelle conduite de dédoublement était mise en fonction pour la fin de l'année, ben en effet 50% de l'eau consommée à Montet viendrait gravitairement et sans traitement depuis la commune de Baie, respectivement depuis le plateau de Solalay.
Justement parce que la plupart des réserves d'eau proviennent de Solalay, donc il y a vraiment une région qui est propice au captage à cet endroit-là.
Oui, vous avez raison, c'est pratiquement 80% de la provenance de l'eau de Baie, donc c'est déjà quand même énorme. Et c'est vrai que nous avons fait les derniers, en 2016, deux forages supplémentaires qui nous complémentent nos capacités d'eau supplémentaires de 5000 litres minute, c'est quand même énorme. Donc nous avons de quoi alimenter Baie, respectivement la commune de Montet en l'occurrence.
Montet ne manque pas d'eau potable, mais cherche à augmenter ses interconnexions avec les communes voisines et à augmenter la qualité de son or bleu. Gilles Cotet, municipal montaisan chargé de l'environnement.
Montet a toujours eu bien assez d'eau. Par exemple, le puits de Beauferrand, c'est le plus ancien puits de la ville qui est actuellement déconnecté du réseau. Lui, tout seul, il peut suffire à l'ensemble de la ville et du site chimique. Donc nous, ce qu'on a voulu, aujourd'hui, la ville de Montet, elle fournit à peu près 2 millions d'eau potable. C'est un chiffre relativement stable depuis quelques années. La ville, respectivement, mon service, ont adopté une stratégie sur trois axes. Le premier, c'est de pérenniser en fait les ressources existantes, et on en a. La deuxième, c'est de rechercher de nouvelles nouvelles ressources. Et puis, finalement, la troisième, c'est de développer, d'intensifier surtout les collaborations régionales. Donc, nous en avons avec BEM, nous avons avec Massonger, nous avons avec Colombey-Murat. Et puis, tout ça, finalement, vise à sécuriser, en fait, à stabiliser le réseau. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que cette conduite peut être utilisée dans l'autre sens. Et dans le cas où, finalement, la commune de B aurait un pépin sur son réseau, ce qui arrive, hein, ou par exemple une pollution, ça peut arriver quand il y a des gros orages en montagne, eh bien, nous pouvons, la ville de Montpellier peut fournir de l'eau potable à B très rapidement en utilisant la même conduite, mais en inversant le flux.
Aujourd'hui, grâce aux collaborations intercommunales, Montpellier est passé de 50% de l'eau provenant de sources à 80%, contre 20% provenant des nappes phréatiques. Un sujet signé Valérie Blom.
Un mini-hôpital au sein même de l'hôpital de Sion.
L'objectif de cette action, organisée par le Centre francophone de formation de l'hôpital du Valais, est de présenter les métiers de la santé à des élèves des cycles d'orientation de tout le Valais romand. Une façon ludique de les sensibiliser à ces professions au moyen de différents ateliers. Isabelle Donati, responsable de formation au Centre francophone de formation de l'HVS.
Ils sont actifs dans les ateliers, alors on a vraiment accès des ateliers où ils peuvent travailler sur ces ateliers, faire des expériences. Ils peuvent également discuter. Tous les ateliers sont animés par des professionnels des différentes professions, donc ils peuvent vraiment expérimenter, discuter avec les professionnels et puis comme ça découvrir les professions de la santé.
Parce qu'il y a depuis quelques années un manque de personnel hospitalier, on peut dire, puis c'est justement une façon ludique d'amener certains jeunes dans les différentes branches du secteur.
Oui, je pense que ça a quand même un impact, sur la relève. Maintenant, à l'origine, c'était pas le premier but, c'était vraiment parce que au début, c'était pour permettre de découvrir ces professions, puisque à l'hôpital du Valais, on pouvait pas faire de stage avant l'âge de 16 ans, puis ces jeunes, ils ont pas tout à fait 16 ans, donc c'était une possibilité aussi de découvrir quand même ces professions de la santé.
Cette action se déroule jusqu'à demain. Près de 140 élèves des cycles d'orientation de tout le Valais francophone pourront ainsi découvrir les différents métiers de la santé. Un sujet signé Léa Journaux.
Nos lointains ancêtres seront à l'honneur demain à Champoussin.
L'organisme touristique Région Dent du Midi met en place une animation autour du thème de la préhistoire pour les enfants de 6 à 12 ans, nommée au temps des Cro-Mignons. Elle se tiendra donc demain de 14 à 17 heures. François-Maxime Dufroy, coordinateur événement pour Région Dent du Midi.
Ce sera le rendez-vous directement au téléski des Champais, donc tout en bas de la station de Champoussin. Et l'idée, c'est que les enfants se retrouvent avec un petit groupe pour aller construire en fait une cabane, apprendre à faire un petit feu et même façonner son arc en bois. Donc c'est vraiment l'idée de retracer un peu l'histoire des Cro-Mignons, un peu de la préhistoire, si on peut voir ça comme ça. Et vraiment une animation qui dure 3 heures et qui est faite pour que les enfants découvrent un peu cette période un peu fantastique de l'histoire.
Pour toute personne intéressée, il est toujours possible de s'inscrire pour cette animation au temps des Cro-Mignons. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga souhaite organiser en Suisse un sommet mondial sur le climat. Mais organiser cette conférence annuelle de l'ONU consacrée au réchauffement climatique relève d'un gros défi logistique et d'hébergement. Et des critiques sont souvent émises sur les décisions prises lors de ces sommets mondiaux et leurs résultats sur le terrain. Cela demeure cependant positif pour le conseiller national genevois et vice-président des Verts Suisses, Nicolas Walder.
Ces conférences sont essentielles, où qu'elles se déroulent, parce qu'il faut absolument cette coordination entre États. Ça oblige tous les États, finalement, à se fixer des objectifs. Même si on est très souvent déçu par le résultat, il y a quand même des résultats, et donc c'est indispensable. L'environnement est l'enjeu du siècle. Après, est-ce que ça doit se dérouler en Suisse ou pas? C'est une question qui peut se poser. Je pense que entre la Genève internationale et la Suisse a l'habitude d'organiser des réunions internationales, même de cette ampleur. En plus, sur les questions environnementales, ça permet très au niveau suisse à mettre l'environnement sur la pile des dossiers importants et évidemment d'en parler et d'avancer aussi dans notre propre agenda.
Mais du côté de la conseillère d'État fribourgeoise et vice-présidente des libéraux radicaux suisses, Johanna Gapani, l'enthousiasme pour le projet de Simonetta Sommaruga est plus mesuré.
À première vue, pourquoi pas? Je ne m'oppose absolument pas à ça. Après, je regrette un peu qu'on n'agisse pas directement sur des projets qui sont déjà en cours dans notre pays pour améliorer l'efficience énergétique, notamment pour créer aussi des infrastructures qui permettent de produire du chauffage, qui permettent de produire de l'électricité, et qu'il y a un énorme travail qui est nécessaire, et c'est aussi son département et c'est aussi à elle de faire avancer ces projets-là. J'en attends un peu plus sur ce qui existe dans notre pays, ce qui est aujourd'hui bloqué, là où on a la possibilité déjà de renforcer l'efficience énergétique et puis de répondre finalement à cet énorme défi qu'est le changement climatique.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami. La prochaine édition de ce sommet mondial de l'ONU est agendée en novembre prochain en Égypte.
L'armée russe a affirmé ce matin avoir détruit une grande quantité d'armes livrées à Kiev par les États-Unis et les pays européens.
La frappe lancée depuis la mer a touché une usine d'aluminium de Zaporijia. L'armée russe affirme également avoir mené des frappes aériennes contre 59 cibles ukrainiennes, dont 50 où se trouvaient des troupes et 4 dépôts de munitions. Cette annonce intervient alors qu'une quarantaine de pays se sont réunis hier en Allemagne à l'invitation des États-Unis pour renforcer la défense justement de l'Ukraine. Et on ouvre notre page sport avec du basket. Fribourg Olympique était trop fort hier soir pour le BBC Montéchablais. La formation fribourgeoise a fait cavalier seul lors du deuxième acte des quarts de finale des play-offs de SB League. Face à une défense presque infranchissable, les Valaisans ont très vite été en difficulté. En manque d'adresse, ils ont pris l'eau dès la fin du premier quart-temps. Le match a ensuite tourné à la correction pour les jaunes et verts, fessés 106 à 52 par leur adversaire. Pour les Montaisans, le défi est maintenant de très rapidement se tourner vers la rencontre décisive qui se profile samedi à domicile. Mais la lourde défaite concédée en terre fribourgeoise risque de laisser des traces. Les impressions de l'entraîneur chablaisien Patrick Pembélé.
On est à un moment de la saison en play-off où est-ce qu'on veut rentrer en vacances ou pas? Il y a cette question. On peut se poser la question aujourd'hui sur l'état d'esprit de certains joueurs ou sur toute l'équipe, pardon, pas certains joueurs, sur toute l'équipe. Est-ce qu'on veut tous partir en vacances? Donc c'est ce qui fait peur, parce que si c'est le cas, Fribourg peut encore nous faire vivre le pire. Je crois qu'il y a des joueurs qui sont fiers, hein, parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas pu obtenir la 8e place. Maintenant, non seulement d'être fier et arriver au match avec la conviction qu'on peut, il faut savoir que ça va être un match très très difficile, que Fribourg peut encore monter d'intensité et pas abandonner face à cette intensité.
Avec seulement 19 points inscrits en première mi-temps, les Montaisans n'ont jamais été en position de faire douter Fribourg Olympique lors de cet acte 2. Au contraire, même les triples champions de Suisse ont très vite pris confiance avant de dérouler. Impuissants, les Bavalaisans avaient la tête baissée au moment de regagner les vestiaires. Le joueur chablaisien Thomas Salman revient sur ce qui s'y est dit.
Beaucoup de déceptions de notre performance. Voilà, on s'est battu toute la saison pour essayer de décrocher une place en play-off, surtout à la fin. Là, dans la course, on était 3 équipes pour 2 places et puis finalement on en a eu une. Mais beaucoup de déceptions parce qu'on n'a pas du tout montré ça sur la saison. Et puis là, on montre un visage qui n'est pas familier à tout le monde et puis qu'on n'a pas envie de montrer. Et du coup, beaucoup de déceptions surtout. Et puis va falloir réfléchir à ce match, même l'oublier parce que c'est important, c'est une série. Donc voilà, ce match il est perdu, maintenant il faut passer au suivant. Et puis comme j'ai dit de nouveau, aller essayer de gratter une victoire.
Les joueurs du BBC Montéchablais auront l'occasion de se rattraper samedi lors de l'acte 3 à la salle du Reposieux. Une nouvelle défaite contre Fribourg Olympique serait synonyme de fin de saison.
En course à pied, Eviona figure au programme ce soir du Tour du Chablais.
Le village du district de Saint-Maurice accueille la deuxième étape de la boucle chablaisienne. Et comme chaque mercredi en cette année de 35e édition, les enfants accompagneront les adultes. Plus de 1000 participants sont ainsi attendus dans les rues évionnardes. Pour les plus grands, un parcours de 8,1 km a été mis sur pied par le ski club Salentin, chargé d'organiser cette étape. Romain Jordan, président de la société, passe en revue ce tracé.
Alors le départ et l'arrivée ont lieu sur la place du village devant l'église. Ensuite, les coureurs partiront d'abord sur les hauts du village. Donc un parcours montant au début, puis ensuite ils redescendront en direction du terrain de foot pour ensuite avoir une zone de plat de 4,5 km à peu près pour aller jusqu'à la Balma et le long de la forêt et puis revenir à Eviona le long du Rhône plutôt. Et puis pour finalement attaquer la dernière petite montée et rallier l'arrivée après 8,1 km.
A noter que pour les enfants, les premiers départs de cette deuxième étape du Tour du Chablais seront donnés à 18h à Eviona. Les adultes en découdront une heure plus tard.
Et on termine avec du ski alpinisme. Les choses sérieuses vont commencer sur la patrouille des glaciers.
Les premiers départs de cette édition 2022 seront donnés la nuit prochaine. Tracée du calendrier il y a 2 ans à cause de la pandémie de Covid-19, la mythique course valaisanne est donc officiellement de retour au calendrier. De quoi ravir les quelques 1500 participants annoncés. Parmi eux, Stéphane Milius fait office d'habitué. Le résident de Vérossa n'a pas manqué la moindre PDG depuis 1988. Mais si ce quinquagénaire chablaisien est un fidèle parmi les fidèles, son plaisir reste intact. Il en va de même pour les émotions ressenties au moment de franchir la ligne d'arrivée à Verbier après 57,5 km d'effort depuis Zermatt. Les précisions de Stéphane Milius.
Quand on a fait le parcours, on voit cette ligne d'arrivée, on a vécu quelque chose de fort malgré tout. Et ce n'est pas toujours dans les paroles, hein, c'est dans l'effort, c'est dans la souffrance musculaire, et des fois des hauts et des bas au niveau du moral. Et quand on voit cette ligne d'arrivée, c'est une délivrance, et ça c'est incroyable, quoi. C'est comme un shoot, quoi. Et là c'est un aboutissement, non, c'est waouh. On a réussi. Et puis le but, c'est ça, quoi. Le but, c'est d'arriver.
Et ça ne change pas au fil des éditions.
Ça ne change pas au fil des éditions, mais par contre, on est prêt à accepter l'arrêt d'une épreuve suite à un accident grave ou à des conditions dantesques ou des choses comme ça. La vie, c'est important, quoi. On ne veut pas prendre de risques malgré tout.
Des propos recueillis par Julien Traxel. À noter que cette édition 2022 de la Patrouille des Glaciers sera à vivre samedi tout au long de la matinée sur Radio Chablais, en direct de Verbier.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.